Bonjour à tous. Voilà, c'est toujours une joie d'être à l'église de Wavrin, de retrouver beaucoup de frères et de sœurs au fil des années, et d'autres aussi que j'ai pas vu depuis quelque temps. Et puis c'est toujours une joie surtout d'être dans la présence de Dieu ensemble, et d'écouter ce qu'il a à nous dire à travers les prières, à travers les partages, à travers la louange, la parole, et de se laisser fortifier, encourager et conduire par son Saint-Esprit ensemble. Voilà, alors pour aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé particulièrement au travers d'un psaume, et je vous invite à prendre ce psaume, psaume 84, et on va lire les 9 premiers versets. Psaume 84, 9 premiers versets. Ô que j'aime tes demeures, éternel Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits près de tes autels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tout tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. C'était verset 8, pardon. On va s'arrêter au verset 8. Voilà. Amen. Seigneur, nous te remettons ta parole qui est la vérité. Que ta parole puisse pénétrer nos cœurs ce matin. Enlever tout voile, Seigneur, et accomplir ta volonté, nous révéler ta volonté et venir nous fortifier, Seigneur, dans notre marche avec toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié et que ta parole atteigne les cœurs et fasse son œuvre de libération et d'envoi dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Voilà, avant d'aller directement sur la parole, ces dernières semaines, le Seigneur me rappelle deux paroles qui m'a donné il y a quelques années de cela, déjà en 2006, et une autre plus récemment qui nous a donné au travers de la maison de prière. Vous savez qu'on se retrouve chaque vendredi au château. Et donc la première parole, c'était en 2006, dans un temps de prière, le Seigneur m'a dit les changements de saison dans les temps de crise. Et je comprenais pas tellement cette parole au début, mais Dieu m'a travaillé, m'a accompagné avec cette parole, les changements de saison dans les temps de crise. Et au fur et à mesure, on voit des temps de crise tout autour de nous. Bon, je pense qu'on a des temps de crise personnels, mais il y a aussi un temps de crise majeur que le monde traverse, probablement que l'Église traverse, que les ministères traversent. Et je pense qu'ici, beaucoup pourraient dire qu'ils sont dans un temps de crise personnelle. Et la seconde parole, donc ça c'était il y a quelques mois, dans la maison de prière. Le Seigneur nous a donné cette parole en disant que, voilà, il y a beaucoup ici qui sont à un carrefour de leur vie. Il y a beaucoup parmi nous qui sont à un carrefour de leur vie. Et je crois que beaucoup ici sont à un carrefour de leur vie, mais ce qu'a ajouté la parole, c'est que ce carrefour a la forme d'une croix. Ce carrefour a la forme d'une croix. Et je pense que dans nos vies, on a des temps comme ça, où Dieu nous attend au carrefour. Et à un carrefour, tu as plusieurs directions, tu as plusieurs choix. Et le Seigneur, il veut dans ces carrefours nous rencontrer pour nous faire prendre les bons choix. Et voilà, le frère David nous a parlé d'un carrefour dans sa vie quand le Seigneur l'a saisi, lui qui était loin, qui était athée, et il l'a amené à lui. Voilà un premier carrefour. Un carrefour, la conversion, je pense qu'on se retrouvera tous là-dedans. Je sais que nous, personnellement, on a eu des carrefours majeurs dans nos vies et Dieu a toujours fait grâce dans ces carrefours. Mais il fallait faire des choix. Il fallait faire des choix. Je sais que quand le Seigneur nous a appelés à le servir, c'est quelque chose qu'il avait déposé depuis des années en nous. Et on reportait, et on attendait, on travaillait en Afrique. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On avait traversé une période financière très difficile. Là, on était au large. Et donc, on hésitait à s'engager. Et le Seigneur nous a rencontrés un jour dans un parc national. Et il m'avait donné un rêve des années auparavant, dans ce rêve, moi, Maggie, et il y a un lion qui arrivait dans ce rêve pour nous dévorer. Mais le Seigneur intervenait dans ce rêve et disait, ne craignez rien parce que moi, Dieu, je vais vous délivrer. et le lion partait. Et des années après, 6 ans plus tard, on s'est retrouvé dans ce parc. On a pris une piste qui était désaffectée, qui était pourtant sur une carte, et puis on s'est retrouvé en panne de voiture. Et on n'a pas pu sortir de la voiture, on a marché. Et quand je suis descendu de la voiture, j'ai reconnu ce paysage exactement comme dans le rêve, des hautes herbes jaunes. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter et à crier à Dieu et à dire... Et je savais qu'il y avait une interpellation par rapport... C'était comme un carrefour. Je savais que Dieu disait, mais qu'est-ce que tu as fait de ta promesse? Qu'est-ce que tu as fait de mon appel? Et donc, j'étais en train de me repentir avec Dieu. À l'époque, on avait notre fille qui avait 20 mois et on s'est mis à marcher parce qu'on savait que si on restait là, personne ne viendrait nous chercher. Donc on s'est mis à marcher, et on a marché en espérant arriver au bord de la grande piste de jour, mais finalement la nuit était là. On a marché, il faisait très chaud ce jour-là, 38 degrés, et on n'avait que... Toute notre eau s'était renversée dans les chaos de la piste, donc on n'avait plus que 3/4 litre d'eau pour moi, mon épouse, sa sœur qui était avec nous, et notre fille. Et on a arrivé au bord de la piste en sachant que les voitures partaient, mais chaque soir. Et finalement, on est arrivé trop tard, elles étaient déjà parties. Donc on s'est dit, on va dormir là, on va attendre le lendemain matin. Mais il faut dire que c'est un parc où il y a... les rangers, plus tard, ils nous ont dit qu'il y avait 200 lions et 400 éléphants dans ce parc. Et puis on commençait à somnoler légèrement, mais d'un seul coup, on entend... comme ça, le grognement du lion qui s'approche. Et donc, je sais que personne ne voulait ouvrir les yeux. Et tout le monde priait, et moi je priais d'autant plus que j'avais eu ce rêve 6 ans auparavant, et que j'ai reconnu le paysage. Et je savais que c'était un carrefour de Dieu. Et donc, on priait, et le lion s'approchait. Et voilà, ah ben, on l'a plus, le lion. C'était... nous, on était les agneaux. Et je pense que, au bruit, hein, je pense que le lion était à peu près à la distance entre moi et la porte. Et il continuait d'avancer en grognant, et d'un seul coup il s'arrête, et je priais ce rêve, et d'un seul coup j'entends le lion qui s'arrête pendant un instant, quelques secondes, et puis après il part comme ça. Et donc on s'est vite levé, on a dit il faut pas rester là. Et en fait les rangers le lendemain ils nous ont confirmé, il fallait surtout pas rester là parce qu'on était juste à côté de la mare. On savait pas, et tous les animaux sortent la nuit pour boire à la mare, donc c'était le lieu de passage en fait pour aller à la mare. Voilà. Et donc à partir de là, on a marché toute la nuit. On n'avait plus d'eau, on était complètement desséchés. On rationnait ça avec une goutte d'eau à chaque fois. Notre fille, au début, elle pleurait, et puis on lui a parlé. Maggie, sa maman, lui a dit il faut pas pleurer parce que sinon les bêtes sauvages vont arriver. À partir de ce moment-là, pendant 15 heures, Elianaï, au dos de sa maman, elle a dormi. Elle a pas ouvert la bouche, elle a pas ouvert l'œil. Elle dormait. Et puis on a marché 37 kilomètres. Le lendemain, on a pu faire la distance, 37 kilomètres comme ça. Et on est au lever du jour, à 6 heures, on est sorti du parc. Et les rangers nous ont vus sortir à pied du parc. Donc on a expliqué la situation. Et ils sont venus ensuite nous dépanner. Donc ça, c'était vraiment la grâce de Dieu. Mais le même jour, on a appris qu'il y avait un bombardement toute la nuit à Bangui, dans la capitale centrafricaine, le pays de mon épouse. Et que c'était la guerre, l'armée française bombardait les rebelles, donc il y avait toute une guerre qui se passait là. Et plus tard, quand on rentre à la maison, le jour suivant, on apprend que le frère de Maggie a eu une attaque cérébrale, et comme il y a un contexte de guerre, et il peut pas être soigné, et une semaine plus tard, il va mourir. Et donc, dans ce carrefour divin, voilà, il y avait la mort qui était là, au rendez-vous, qui nous attendait, mais il y avait la grâce de Dieu qui nous a sauvé la vie. Et à partir de là, on a compris que c'était le temps maintenant de s'engager avec Dieu. On a encore lutté quelques mois avec ça. Et mon épouse, dans cette mort de son frère, où Dieu avait fait une œuvre dans sa vie, il était revenu à Dieu. Elle a été poussée par l'Esprit à désirer changer de vie. Elle ne voulait plus vivre juste une petite vie chrétienne, routinière, mais elle voulait vraiment s'engager avec Dieu. Et c'est ça qui nous a poussé à nous engager et à marcher avec Dieu. Donc voilà, et à le servir. C'est juste un exemple, j'ai essayé d'être assez rapide parce que c'est un peu long l'histoire, mais quels sont les carrefours divins que Dieu met dans nos vies? Quels sont les temps de crise que tu traverses, mon frère, ma sœur? Mais quand tu traverses un temps de crise, demande-toi quel est le changement de saison que Dieu veut mettre dans ta vie. Quand il y a des temps de crise, soit tu vois le problème, soit tu vois l'opportunité que Dieu va sortir au temps de ce temps de crise. Comme il a dit à Joseph, voilà, Joseph a dit à ses frères, vous aviez médité le mal, et il y a toute une crise, 17 ans de, 13 ans de crise qui arrive pour Joseph, mais Dieu l'a transformé en bien. Quand tu as un temps de crise dans ta vie, ne regarde pas le problème, mais regarde et questionne Dieu, quelle est l'opportunité que tu veux faire sortir de ce temps de crise? Et donc, soyons conscients des carrefours auxquels nous sommes, des choix qui sont devant nous et du choix que Dieu veut donner pour nos vies. Et maintenant, on va revenir au texte. J'ai voulu partager ça parce que finalement, dans ces temps de crise, dans ces carrefours divins, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que ça va être nos bonnes pensées? Est-ce que ça va être nos activités? Est-ce que ça va être notre stress? Est-ce que ça va être le fait de s'agiter à droite et à gauche? Non, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est de venir dans la présence de Dieu et de chercher sa face. Et dans ce passage, David nous rappelle, non, c'est pas David d'ailleurs, c'est un psaume d'un des adorateurs du temple. Il dit, j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire après tes parvis. Il y a un désir de venir dans la présence de Dieu. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais si on est honnête avec nous, bien sûr, en tant que chrétien, on aime Dieu, mais notre chair, dans le naturel, elle lutte avec cette idée de passer du temps dans la présence de Dieu. Je pense que depuis la chute, hein, vous savez quand Adam et Ève ils prennent le fruit de la connaissance du bien et du mal, voilà, après ils se cachent quand Dieu vient, jusque-là ils ont la communion avec Dieu et après ils se cachent. Et je pense que quelque chose lutte toujours en nous de venir dans la présence de Dieu, particulièrement quand les choses vont mal, particulièrement si on est à l'origine de ces choses qui vont mal. On a toujours une tendance à fuir et se cacher. Mais Dieu, dans ces temps de crise, il veut nous attirer à lui dans sa présence. Donc c'est une victoire à obtenir. Il faut, je crois qu'à la conversion, on obtient une victoire, on vient dans la présence de Dieu, on lui apporte nos fardeaux, on lui apporte notre péché, on reçoit son pardon. Il y a une lutte avant une conversion. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être cultivé en chemin. Et en chemin, quand nous cheminons avec Dieu, nous sommes aussi transformés par sa présence. Et je pense qu'on a tous expérimenté ça. Quand tu arrête de cultiver la présence de Dieu, tu as beaucoup de mal à revenir. Je pense qu'à chaque fois qu'on se laisse décrocher de cette présence, on a beaucoup de mal à revenir. Par contre, plus tu la cultives et plus tu la désires, parce que plus tu apprends à connaître Dieu et plus il met son désir dans ton cœur. Voilà, je pense qu'il y a un parallèle qui n'est pas parfait, mais avec un fiancé, une fiancée, ils désirent sa présence. Et quand ils sont en présence l'un de l'autre, ce désir grandit. Mais Dieu est bien plus qu'une fiancée et un fiancé. Lui, il est parfait, il ne déçoit pas. Et dans sa présence, ce désir augmente en nous. Quel désir as-tu de sa présence? Quel désir as-tu de sa présence? Vous savez, j'ai parlé du Burkina Faso. Quand nous étions au Burkina Faso, quand je travaillais dans l'agriculture, et il y a quelque chose qui me frappait beaucoup au Burkina, et je pense que c'est pour tous les pays du Sahel, c'est que tu as une période chaude, tu as une saison sèche qui est longue, et plus tu avances dans la saison sèche, et plus il fait chaud. Et donc ça monte, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, maximum qu'on avait eu c'était 45. Mais aussi il y a l'humidité qui est de plus en plus forte, mais il pleut pas. Et parfois tu vois le ciel tout noir à l'horizon, tu dis ça y est la pluie arrive. Et le vent se lève, c'est complètement bouché noir. Et tu vois, le vent arrive, et donc tout le monde se réjouit, c'est la pluie. Et tu as une grande tempête de sable, de poussière, et il pleut pas. Et je peux dire que tu languis après la pluie, parce qu'il fait chaud, c'est terrible. Et les agriculteurs, ils languissent après la pluie, parce qu'ils savent que si la pluie ne vient pas, ils auront pas de quoi manger la saison suivante. Donc, je pense qu'il y a une prière qui est peut-être pas chrétienne, mais il y a une prière qui monte du cœur de chacun après la pluie. Il y a quelque chose qui languit et qui désire. Et c'est ce genre de désir que Dieu veut éveiller en nous. Vous savez, le psalmiste, il dit « je languis ». Et la traduction exacte, c'est « je languis à rendre l'âme après les parvis du Seigneur. Je languis à rendre l'âme. Quel est notre désir de la présence de Dieu? Quelle est l'intensité du désir? Dieu va répondre à la mesure de l'intensité de notre désir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui volent ce désir et qui volent cette présence dans nos vies. Peut-être les déceptions de la vie, peut-être notre négligence, peut-être l'occupation de la vie, peut-être le stress des activités, où il faut toujours faire plus, toujours faire mieux. Mais Dieu veut nous attirer à nouveau dans sa présence. Parce qu'il sait que c'est là que nous allons apprendre à le connaître et à être remplis de lui. Et ça, c'est là que tu vas trouver les réponses à tes carrefours et à tes crises. Alors là, on a l'exemple de ce qui se passe en Israël, et on voit comment le psalmiste, il s'émerveille de ce que les oiseaux... Il y avait des oiseaux dans le temple. Hein. Voilà, je ne sais pas si dans nos églises, on accepterait qu'il y ait des oiseaux. Voilà, peut-être que s'il y a une hirondelle qui fait son nid, là, Jean-Luc va dire, ah, il faut faire le ménage, il faut la chasser, je ne sais pas. Mais le temple, c'était assez ouvert, finalement. C'était une grande bâtisse, mais avec pas mal d'ouvertures. Et certainement, il y avait des oiseaux à l'entrée, sur les frontispices, dans le creux des rochers, mais probablement aussi à l'intérieur. Et parfois, je me dis, mais peut-être même que les oiseaux, ils volaient, qui peut les empêcher de voler où ils veulent? Peut-être qu'ils entraient même dans le lieu très saint, hein, hop, au-dessus du voile, là, et puis ils faisaient un petit tour. Voilà, ils étaient privilégiés, les oiseaux. Et le psalmiste, il s'émerveille de ça. Il dit, mais ah, ça, c'est merveilleux. Voilà, ils sont dans cette liberté et ils peuvent aller où ils veulent dans le temple. Alors que les hommes n'avaient pas le droit d'aller dans le lieu, tout le monde ne pouvait pas aller dans le lieu saint et à part le grand prêtre une fois par an, personne n'allait dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas ces oiseaux aussi? Est-ce qu'on n'a pas ce libre accès? Le voile, il a été déchiré. On peut entrer dans la présence de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Qu'est-ce que tu fais de cette libre accès? Tu imagines, des générations ont désiré pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Des centaines de millions d'hommes sur cette terre soupirent de connaître la présence de Dieu, même s'ils ne réalisent pas ce après quoi ils soupirent. Mais nous avons ce libre accès. Nous avons cette liberté. Qu'est-ce que nous en faisons? Quel est notre désir d'entrer et de demeurer dans la présence de Dieu pour l'écouter, pour le voir, pour recevoir de lui, pour être renouvelé en lui, pour admirer sa beauté et pour être fortifié, comme tout à l'heure notre frère l'a dit, pour être envoyé. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Que faisons-nous de notre libre accès à Dieu? Et alors là, on voit l'histoire d'un moineau. Dans d'autres versions, il y a oiseau ou passereau. En fait, ça désigne un oiseau en général, qui trouve un refuge. Et je pense, c'est vrai, la présence de Dieu, c'est un refuge. C'est un refuge pour beaucoup de personnes. Quand tu es découragé, quand tu es écrasé, quand tu es déçu, quand tu es fatigué, quand tu ne vois plus d'horizon, de perspective. Voilà, quel privilège de pouvoir venir dans le refuge des bras de Dieu. Quel privilège. Est-ce que nous saisissons ce privilège? C'est un refuge aussi, et je pense l'Église, voilà, individuellement dans nos vies, nous pouvons nous réfugier, mais aussi Dieu nous appelle à être un refuge pour d'autres. Et Dieu appelle son Église à être un refuge. Et Dieu, il veut, je pense, des lieux de sa présence, des lieux d'adoration, des lieux de prière, des lieux où il règne pour être un refuge, pour que beaucoup d'hommes et de femmes puissent venir. Ils sentent la présence de Dieu. Ils sentent que là, même si tu ne leur parles pas, ils sentent qu'il y a une présence qui peut être un refuge pour les problèmes de leur vie, qui peut être un refuge pour toutes les luttes qu'ils ont dans leur vie. Et Dieu désire que nos églises soient ces maisons de prière, soient ces lieux de sa présence qui soient des refuges. Des refuges aussi contre l'agitation, la pression du monde, des refuges contre les pensées de ce monde, contre la pensée unique de ce monde. Là où tu vas pouvoir trouver une autre pensée, une autre perspective sur ta vie. Là où tu vas pouvoir entendre Dieu te parler et remettre ses priorités dans ta vie et te donner ses pensées pour marcher dans ta vie avec ses pensées. Un refuge. Mais c'est pas un refuge seulement. C'est un refuge. Et alléluia pour le refuge. Parce que ça, c'est essentiel d'avoir un lieu de refuge quand tu peux pas aller où que ce soit dans ta vie, quand tu arrives au bout de toi-même. Comme c'est vous voyez, au Burkina Faso, j'ai parlé de ce désir. Vous savez, ces gens, ils savaient que leur vie, elle tient à ces pluies. Ils savent que s'ils sèment et qu'il ne pleut pas, c'est vain. Et non seulement c'est vain, mais ils vont dépenser toute leur semence, ils pourraient la manger. Vous savez, quand tu vois la réalité de ces paysans dans les zones sahéliennes, c'est une question de vie ou de mort. À un moment donné, ils sentent que les premières pluies arrivent, ils attendent la toute première pluie, et ils disent, il faut vite semer, parce qu'ils ne savent pas le temps que dureront les pluies. Mais s'ils sèment trop tôt, la semence, elle va mourir, parce qu'il n'y aura pas de pluie. Et c'est toujours un enjeu de vie ou de mort. Donner, soit je mange et je donne à manger à ma famille, soit je sème, parce que si je sème pas, je n'aurai rien. Mais ils savent que la semence est vaine si la pluie ne vient pas. Et de même, je crois que dans nos vies, à un moment donné, on arrive dans les périodes de sécheresse, dans les périodes difficiles, à cette extrémité où on réalise que c'est un enjeu de vie ou de mort spirituelle. Qu'est-ce que je fais? Soit je continue à semer ma semence en vain, hein, mes activités, mes pensées, à diriger ma vie, à diriger la vie de ma famille selon mes pensées. Mais si Dieu n'est pas là-dedans, c'est vain. Si Dieu ne vient pas avec son Saint-Esprit arroser ces choses, c'est vain. Et parfois, il y a des temps de sécheresse dans nos vies qui sont permis, c'est des crises, mais Dieu veut que nous arrivions à cette extrémité pour désirer venir dans son refuge et dans sa présence. Et donc, je reviens au point pour dire que c'est pas seulement un refuge. Après, il nous est parlé donc de moineau qui trouve un refuge. Et l'hirondelle, qu'est-ce qu'elle trouve? Un nid. Un nid. Donc c'est pas simplement un refuge, mais c'est un lieu pour enfanter et un lieu pour élever ses petits. Ouais, l'hirondelle, elle faisait ça dans le temple qui était la présence de Dieu pour les Israélites. Elle fait ça. Elle vient enfanter ses petits et elle vient les élever. Et je pense que la présence de Dieu, c'est un lieu aussi où Dieu va semer ses petits en toi. Il va semer ses désirs et ses rêves en toi. Et il va te donner la grâce de les enfanter et de les faire grandir. Ça, c'est le rendez-vous de Dieu. J'étais poussé à aller voir un petit peu l'histoire de l'hirondelle. Alors, il y a une parole déjà dans Jérémie 8, qui nous parle de l'hirondelle. Et que j'ai trouvé très interpellante. Jérémie 8, verset 7. Ça commence par la cigogne, mais il y a l'hirondelle dedans. Jérémie 8, verset 7. La cigogne elle-même, dans le ciel, connaît bien le temps des migrations. La colombe, la grue et l'hirondelle observent l'époque de leur retour. Mais mon peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies. Quelle phrase, c'est terrible d'entendre ça. La création que Dieu a créée, les animaux, ils savent quand est-ce que c'est l'époque de la migration. Les hirondelles, elles savent quand, voilà, l'hiver approche et elles partent migrer en Afrique. Et elles savent quand c'est le temps de revenir. On dit souvent, l'hirondelle annonce le printemps. Bon, je sais qu'il y a le dicton qui dit, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais quand les hirondelles viennent, tu sais que les beaux jours arrivent. Et elles connaissent ces temps, elles savent discerner les temps. Elles savent discerner les temps quand il est temps de revenir. Et vous savez, j'ai lu que l'hirondelle, chaque année, elle revient, généralement, elle revient au même endroit où elle a niché l'année précédente. Et elle sait que quand est-ce que c'est le temps de revenir. Mais Dieu dit, mon peuple ne connaît pas les temps. Et je crois que c'est un temps particulier. Je pense que c'est toujours le désir de Dieu de que ses enfants viennent dans sa présence, passer du temps dans sa présence. Mais je crois que ce temps de crise, ce temps de difficulté que nous traversons, individuellement et en tant qu'Église, et même le monde, c'est un temps où Dieu dit « Revenez, revenez au lieu de ma présence ». L'hirondelle, elle sait reconnaître ce temps. Elle sait quand le temps est favorable pour venir dans la présence de Dieu et pour revenir nicher jusque dans le temple. Et Dieu dit « Mais que fais-tu, mon peuple ? Que fais-tu ? » Est-ce que tu ne reconnaîtras pas le temps où c'est l'urgence et la priorité de Dieu de venir dans sa présence et de passer du temps dans sa présence? Toujours dans cette histoire d'hirondelle, j'étais étonné parce que j'étais vraiment poussé par l'esprit à aller voir l'histoire de l'hirondelle. Mais ce qui est certain dans ce qu'on partage là, c'est que l'hirondelle annonce une nouvelle saison. L'hirondelle annonce quelque chose de nouveau. Et des fois dans nos vies, voilà, des épisodes comme ça peuvent paraître comme une tragédie. Mais Dieu sait aussi ce qu'il fait au travers de ça. Et oui, oui, mais justement, je pense que pour lui, c'était pas une perte, mais c'était un gain. Bon, voilà. En tout cas, ce que je veux souligner, c'est la priorité et l'urgence de revenir vers Dieu, de cultiver sa présence et l'adoration. Oui, alors d'autres choses sur l'hirondelle, vous savez que quand elle migre, et donc quand elle part, mais quand elle revient, elle peut faire jusqu'à 10 000 kilomètres. Et quand elle quitte l'Afrique, elle fait 10 000 kilomètres avec juste quelques grammes de graisse. Elle fait tout ce parcours pour revenir. Vous voyez, elle traverse, et Dieu la porte dans sa grâce. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de réserves, et Dieu la porte dans sa grâce et la fait revenir. Et je pense parfois, quand on est dans nos temps de crise, on se dit, mais le chemin est trop long pour revenir à toi, Seigneur. Mais j'ai pas la force. Tu sais jusqu'où je suis allé, tu sais ce qui m'empêche d'aller vers toi dans ma vie. Je pourrais pas, mais la grâce de Dieu est là, qui est capable de faire revenir, même ceux qui sont loin, vers lui. Ça, c'est la grâce de Dieu qui te porte. Ne regarde pas à ce que tu as en toi, comme l'hirondelle qui a peu de graisse, mais regarde à la grâce de Dieu qui te porte et qui t'accueille. Encore quelque chose sur l'hirondelle. Quand elle revient, donc en Europe, c'est le temps pour elle de la fécondation. Enfin, première chose, c'est quand elle revient, elle a une grande faim. Elle a une grande faim parce qu'elle a fait tout ce parcours avec, elle a dépensé toutes ses graisses et donc elle mange beaucoup. Et je pense que ça aussi, c'est l'appel de Dieu. Venez dans ma présence et nourrissez-vous, vous qui êtes affamés, vous qui n'avez plus de force, venez pour vous nourrir de ma présence, de ma force. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Et puis, ensuite, donc, elle féconde, elle va être fécondée, et puis elle va déposer ses petits, elle va nourrir ses petits aussi. Et les petits vont grandir, et l'hirondelle aussi, elle reste près de ses petits, tout le temps, jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Et généralement, ça va être à peu près 3 semaines. Elle reste, elle les nourrit, elle fait des allers-retours, elle les nourrit. Mais tant qu'ils sont pas autonomes, elle va jamais les laisser. Et quand je lisais tout ça, je me disais, mais quel parallèle avec ce que Dieu veut faire et veut que nous soyons dans sa présence. Voilà, il nous invite à revenir, il nous invite à nous nourrir, et il dit, mais voilà, ce temps dans ma présence, c'est là que je vais déposer mes désirs, mes plans, mes rêves dans ton cœur, dans ta vie. Et ça va aussi donner des solutions à ta vie, des réponses à ce que tu là où tu te poses des questions, des directions et des choix pour les carrefours de ta vie. Et Dieu dit, mais restez dans ma présence jusqu'à ce que mes rêves soient et grandis, que vous ayez élevé, fait grandir mes rêves, que mes rêves aient grandi en vous jusqu'à ce qu'ils soient capables d'entrer en réalisation, d'arriver à une sorte de, pas d'autonomie, mais qui vont être capables. Ces rêves vont devenir possibles, ces rêves vont devenir vont entrer en action. Et donc ça m'amène à penser au fait que la présence de Dieu, c'est un refuge, c'est un lieu pour être enfanté et pour élever, pour voir les rêves de Dieu grandir, les désirs de Dieu grandir, mais c'est aussi un lieu pour trouver la force d'aller, pour trouver la force de repartir et d'entrer dans la mission que Dieu a programmée. Alors, quand j'entendais le frère qui parlait de ça aussi, de cette mission, voilà. Mais ta mission et la force de l'accomplir ne peuvent venir que dans la présence de Dieu. Que dans la présence de Dieu. L'hirondelle, elle va passer de ce temps, elle va se nourrir, elle va déposer ses petits, elle va rester près de ses petits, elle va se nourrir pour le prochain voyage. Et elle repart en migration jusqu'à 10 000 km pour le prochain voyage. Quelle est la prochaine étape que Dieu a prévue pour ta vie? Est-ce que tu vas décider, voilà, mais c'est la crise, je suis trop loin, je peux pas revenir. Oh, et puis, ou alors est-ce que tu vas décider, il faut que j'agisse par moi-même, il faut que je fasse ceci et cela, il faut que je trouve les solutions. Ou est-ce que, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'église, nous allons décider, voilà, c'est un temps d'urgence et de priorité pour revenir vers Dieu, dans sa présence, cultiver sa présence et le laisser déposer pour les temps nouveaux le rêve de Dieu pour ta vie, pour son église, église locale, mais aussi son église, pour qu'elle soit un témoin dans ce monde, pour les choses nouvelles que Dieu veut faire. Dieu veut donner une nourriture, une grâce, sa présence, pour nous nourrir et pour nous envoyer. Et pour que ça soit pas quelque chose... Voilà, l'hirondelle, quand elle repart, elle va pas juste repartir avec si peu de nourriture qu'elle va mourir en chemin. Elle se nourrit de tout ce qui est nécessaire pour aller au bout de la course. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. C'est ce que Dieu veut. Il veut nous nourrir pour aller au bout de la course avec lui. Et alors, on avance dans le psaume 84. Et il est dit, « Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. » Voilà, ils vont se mettre en route. Hein. Il y a une autre version qui dit, « Heureux ceux en qui tu vis, dont les vies deviennent des chemins que tu parcours. » Heureux ceux en qui tu vis, dont les vies deviennent des chemins que tu parcours. Dieu veut parcourir les chemins de ta vie. Il veut t'amener sur ses chemins. Mais c'est la présence de Dieu dans ta vie qui va faire que tu peux aller sur ces chemins, que tu trouves le désir et la force de marcher sur ces chemins et d'aller au bout de ces chemins. Et il est dit aussi que de bon cœur, parce qu'il y a plusieurs traductions différentes, mais de bon cœur, ils se mettent en route. De bon cœur, ils se mettent en route pour le pèlerinage que Dieu leur a fixé. En l'occurrence, là, ils vont sur Jérusalem, il y avait un pèlerinage. Mais voilà, ils se mettent en route joyeusement, de bon cœur. Je pense qu'un des plus grands défis actuellement, c'est la perte de l'enthousiasme dans nos vies, dans l'Église. Parce que dans les temps de crise, généralement, c'est difficile de garder l'enthousiasme. Voilà, toutes sortes de choses t'arrivent, tu es découragé par ceci, tu es déçu par cela, par ta propre vie, tes propres manquements, par les offenses, par les blessures, par les déceptions peut-être que d'autres frères et sœurs t'ont amené, ou que ce que tu espérais de l'Église. Mais dans ces temps-là, c'est l'enthousiasme qui peut être attaqué. Et si tu n'as pas d'enthousiasme, comment tu pourras aller au bout du chemin? Vous savez, enthousiasme, ça vient du grec anthéos. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en Dieu. En Dieu. L'enthousiasme ne vient que quand tu es en Dieu. L'enthousiasme ne vient que dans la présence de Dieu. Et dans l'adoration, dans la prière, dans la parole, dans le temps passé avec le Seigneur. C'est là que tu vas trouver ton enthousiasme. Voilà, on veut essayer de réveiller l'enthousiasme des chrétiens, réveiller l'enthousiasme des gens pour les faire venir à Dieu par toutes sortes d'activités. Mais c'est pas là qu'on va trouver l'enthousiasme. C'est en Dieu. C'est Dieu seul qui peut renouveler l'enthousiasme dans sa vie. Et je pense qu'ici, probablement, chacun, plus ou moins, lutte avec l'enthousiasme pour Dieu dans sa vie. Mais Dieu te dit, viens mon fils, viens ma fille bien-aimée, dans ma présence, pour que je renouvelle ma force en toi, ma grâce et mon enthousiasme dans ta vie. Et là, tu pourras te lever d'un cœur joyeux, de bon cœur, te mettre en route et aller jusqu'au bout. Et voyez, l'élan que Dieu donne, il est dit dans le verset suivant, lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Donc, ou la vallée de la Baca. C'était une vallée d'épineux, de sécheresse. Et quand tu as l'enthousiasme de Dieu, quand Dieu te communique cette force, tu es capable de surmonter tes vallées sèches. Tu es capable de surmonter les vallées des larmes, les vallées des épreuves. Non seulement tu es capable de les surmonter, de les traverser, d'en sortir, mais tu les transformes en des lieux de vie. Ça, c'est vraiment une clé. Si nous cultivons la présence de Dieu dans nos vies, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de vallée des larmes, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de vallée de sèche et d'épineux, mais nous serons capables de les traverser et de les transformer en un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. Et tu vas avoir des lieux pleins de sources pour toi, mais aussi pour les autres. Mais aussi pour les autres. Et il y a plusieurs années, j'avais traversé le désert, et avec une équipe, ils avaient des voitures, et des vieilles voitures retapées, et ils les vendaient, donc j'ai proposé on m'a proposé plus exactement de conduire une des voitures. Et je me rappelle un jour, il y avait un Touareg qui était là, qui faisait du stop dans le désert, il était. Et donc on l'a mis dans ma voiture. Et puis, le gars dans la voiture, bon, il connaissait tous les coins du désert. Donc, on se comprenait pas, il parlait pas. Moi, je parlais pas le tamachek, toujours pas d'ailleurs. Mais il faisait que des gestes, à droite, à gauche, tac, tac, tac. Et donc, j'évitais les zones de sable mou et tout ça, il me montrait. Il savait reconnaître tous les pièges. Il connaissait le désert. Parce qu'il vivait dedans. Il était capable de te diriger. Et quand tu as traversé le désert, soit tu y restes, soit tu en sors, soit tu en sors frustré et amer, soit tu en sors par la grâce de Dieu et guéri par Dieu. Celui qui a expérimenté la grâce de Dieu, il est capable, dans le désert, dans ses déserts, il est capable de conduire les autres dans leur désert et de les faire sortir. Vous savez, dans le désert, il y a une autre chose très importante, c'est que tu as des puits dans le désert, mais il y a des puits qui sont à 30 mètres, 40 mètres, 60 mètres, l'eau est à 80 mètres, et il y a des puits, il faut aller chercher l'eau à 120 mètres. Et donc il y a des gens, ils ont trouvé les puits dans le désert, le problème c'est qu'ils n'avaient pas une corde assez longue. Et on a trouvé des gens morts comme ça à côté de puits parce que leur corde n'était pas assez longue pour atteindre les puits. Quand on a traversé le désert avec ces voitures, les deux choses qu'on avait à tout prix dans la voiture, c'était des réserves de carburant pour la voiture, pour plus de 1000 km, des réserves d'eau, mais on avait des longues cordes, parce que ça peut te sauver la vie. Et je me dis que quand tu as expérimenté la miséricorde de Dieu, tu as une corde longue qui peut aller puiser de l'eau, même dans le pire des déserts. Quand tu as expérimenté la grâce de Dieu, cette miséricorde, elle est capable d'aller chercher de l'eau, même au plus profond de la présence, au plus profond de la lutte, au plus profond du désespoir. Dieu est capable de ramener l'eau dans ta vie et tu es capable d'amener d'autres à trouver cette eau. Mais tout ça, c'est parce que tu as cultivé la présence de Dieu et sa grâce dans ta vie. Et finalement, d'étape en étape, leur vigueur s'accroît. La vigueur s'accroît. Quand Dieu est agissant dans ta vie, quand il y a cette communion et cette adoration, il y a les épreuves, mais la vigueur s'accroît par la force et la grâce de Dieu agissante. Et finalement, il se présente à Dieu en Sion. Le Verbe là parle de être vu, être rendu visible. Voilà, et ça, des fois tu passes des périodes de ta vie où tu as l'impression de ne pas être vu, tu as l'impression d'être complètement, des fois presque abandonné. Mais Dieu n'a pas abandonné. Mais il t'invite dans sa présence. Et là, tu vas être vu de lui. Et peut-être des fois, tu luttes, tu dis, mais pourquoi dans ma vie, là, j'ai pas été honoré, j'ai pas été justifié. Et des fois, on lutte pour être justifié. Mais à chaque fois que tu luttes pour être justifié, crois-moi, peut-être tu vas avoir quelques résultats, mais finalement, tu vas pas obtenir ce que tu cherches. Par contre, si tu cultives la présence et la justification de Dieu dans ta vie, le temps viendra où les choses seront rendues visibles. Et tu seras justifié, pas par les hommes, mais par lui. Et certaines fois, ça arrivera sur cette terre, et dans tous les cas, ça arrivera lors de notre rencontre avec lui, pour être amené dans sa présence éternelle. Voilà. Et donc, que notre désir soit comme cette hirondelle, enfin, plutôt comme cette hirondelle, sachant reconnaître les temps. Sachons comprendre les temps dans lesquels nous sommes, sachons venir cultiver sa présence, sachons laisser Dieu faire revivre les rêves qui sont sur le point de mourir dans nos cœurs, l'enthousiasme pour lui, et sachons recevoir toute la nourriture nécessaire de lui, et passons le temps nécessaire pour que ses rêves vivent, grandissent. Et quand tu as un rêve de Dieu qui vit et grandit dans ton cœur, il n'y aura pas besoin, comme le frère l'a dit, c'est pas que tu vas prendre l'effort d'aller, mais ce rêve va te pousser à aller. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je rêvais sur les cartes. C'est comme si le voyage m'habitait tout le temps. Alors j'achetais des cartes routières de différents pays, je rêvais sur les cartes. Et je faisais plein de projets, de traverser du Sahara, de choses comme ça, sur les cartes. Hein. Et finalement, ça m'aboutit tellement que la nuit, je rêvais. Et dans mes rêves, la nuit, j'ai fait la terre entière. Vraiment l'Amérique du Sud, la traversée de URSS, Chine, tout ça. Mais à chaque fois, je voyais aussi le chemin sur la carte avec des villes réelles parce que j'étais tellement habité. Et mon rêve, c'était de voyager. Et à 18 ans, j'ai commencé à voyager. Bon, j'ai pas fait autant que dans les rêves, là, mais j'ai eu la grâce d'aller dans une soixantaine de pays. Mais parce que ce rêve était en moi, ça me poussait de l'avant. J'avais pas Dieu à l'époque dans ma vie, mais ça me poussait de l'avant. Et ce que j'avais rêvé en moi et ce qui avait grandi dans les cartes et dans les rêves la nuit me poussait à aller. Et il y a plusieurs lieux que j'ai vus dans les cartes, dont j'ai rêvé dans les guides, etc. Et quand tu y es, la perception est différente. Mais si c'est une réalité pour les rêves de voyage, combien plus c'est une réalité pour les rêves de Dieu. Dieu veut nourrir tes rêves. Ses rêves en toi, pour te pousser à aller et à accomplir ses rêves. Amen. On va prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole maintenant fasse son chemin dans nos cœurs. Et Seigneur, là où tu nous as interpellés, là où tu as fait émerger des anciennes situations ou des situations actuelles, Père, je prie que ta parole vienne comme un baume sur ces situations, mais aussi vienne apporter ta paix et tes réponses. Seigneur, je prie pour chacun de nous ici qui se sent à un carrefour de sa vie. Et peut-être ce carrefour, il le voit à peine parce qu'il est dans la crise, parce qu'il est couvert par toutes sortes de choses qui le submergent. Mais Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux sur ta perspective de nos crises, ta perspective des choses que nous traversons, afin que nous voyions les chemins de Dieu, afin que nous trouvions dans nos cœurs des chemins tout tracés par toi. Et cela sera à la mesure de la présence que nous aurons cultivée avec toi. Donc Seigneur, merci pour l'appel que tu donnes à chacun de tes enfants de revenir, de cultiver ta présence, de pas se croire trop éloigné de toi pour ne pas avoir à revenir. Mais Seigneur, que ça soit un rendez-vous, une opportunité, Seigneur, de venir dans ta présence. Et là où le monde nous dit, mais fais ceci et fais cela, il faut agir. Seigneur, nous voulons, dans ce temps, privilégier le repos et l'écoute de Dieu et recevoir tout ce qui est nécessaire pour la marche qui vient. Pour ce que tu as mis devant. Seigneur, ce n'est pas le temps d'épuiser nos forces dans nos programmes d'hommes, mais c'est le temps de recevoir ta force pour ton plan divin qui vient, pour ce que tu as prévu, pour ce temps. Donc Père, je prie que tu nous appelles dans ta présence, tu nous revêts de ta force et de ta grâce, et que nous soyons de ceux qui seront pleins d'enthousiasme pour aller, pour être envoyés par toi, pour être renouvelés par toi et pour porter ta vie là où tu les enverras. Et Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer ce que tu vas faire, mais nous pouvons, dans ta présence, recevoir tout ce qui est nécessaire pour entrer dans ce que tu vas faire. Et c'est ce que nous voulons décider aujourd'hui. Que chacun puisse, dans cette présence, recevoir ta beauté, ta bonté, ta guérison, ta vie, ton renouvellement, l'enthousiasme qui nous manque, Seigneur, et que nous puissions en avoir tout ce qui est nécessaire pour nous-mêmes et l'apporter plus loin. Je te bénis, Seigneur, pour cette invitation, car l'accès est libre, le voile est déchiré, et tu invites chacun de tes enfants. Père, que personne ici ne se prive de la grâce de Dieu, mais que chacun puisse venir avec foi et confiance, parce que tes bras sont ouverts. Parce que ton amour est disponible et parce que tu veux insuffler ta vie dans chacun de tes enfants. Et je te bénis pour ça, Seigneur. Amen.